Ce matin, je vous propose encore de continuer avec les paraboles, une autre parabole, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Et nous prendrons la parabole qui va du verset 28 au verset 32. Matthieu 21, verset 28 jusqu'au verset 32. Vous êtes là? Et je lis. Que vous ensemble. Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains, les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. » Amen. Couvrons la tête quelques instants avant d'entrer dans ce message-là. Seigneur, nous voici devant toi comme des terrains arides attendant la pluie de l'arrière-saison. Et nous voulons, Seigneur, recevoir ce que tu en réserves pour nous ce matin. Comme mon frère Alex le dit, que tu puisses ouvrir notre appétit ce matin à ta parole. Oui, veuille nous arroser. Et Seigneur, que ton esprit nous féconde, afin que nous puissions produire du fruit en entendant ces paroles. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Une autre parabole de la part de Jésus. Et si nous devions mettre un peu de chair sur ce que je viens de dire, il faudrait commencer au début du chapitre 21, dans lequel il y a en fait deux paraboles successives, et ensuite le chapitre 2 qui commence avec une autre parabole, mais dans le même genre, parce que Jésus avait un message à transmettre à ses interlocuteurs. Et Jésus, au début du chapitre 21, fait son entrée à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte où il décide d'aller à Jérusalem, tout en sachant que là, il allait mourir. Il y va quand même. Il fait son entrée à Jérusalem avec une série de signes qui doivent témoigner de quelque chose à venir. Et l'évangile de Matthieu le raconte par la suite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est une entrée en grande pompe, puisqu'il fait là ce que faisaient les rois dans l'Ancien Testament. Le peuple l'acclame avec des cris de joie, on le salue avec des branches de palmier, on pose son manteau sur le sol à son passage. Une entrée digne de roi, quoi. Et c'est même ce que Jésus, là, veut signifier. Il est le roi Messie qui devait arriver, selon ce qu'avait annoncé le prophète Zacharie. Jésus se rend ensuite au temple, et là, il chasse tout le monde, il renverse des tables, il renverse des chaises, et il leur dit, « Vous avez fait de la maison de mon père un repaire de brigands, alors que vous deviez en faire une maison de prière. » Il guérit ensuite des malades, il guérit des paralysés, les enfants dans la cour crient « Hosanna au fils de David !» Et toute cette effervescence suscite la colère des chefs religieux, des responsables du peuple. Et Jésus ne l'entend pas de cette oreille. Il s'en va, quitte la ville et se dirige dans la bourgade de Béthanie. Vient ensuite la malédiction du figuier, qu'on a du mal à expliquer si on ne comprend pas que le figuier ici représente symboliquement Israël. Et Jésus, il ne maudit pas le figuier par simple plaisir, ou juste pour montrer qu'il en est capable. Non. Il annonce ainsi le jugement qu'il prononçait sur son peuple Israël. Le drame de sa venue, c'est qu'il arrive dans sa vigne et il ne trouve pas de fruits, alors qu'il devait en trouver à profusion. Il ne trouve pas de fruits. Et la malédiction du figuier est une préfiguration du jugement qu'il prononce. Nous sommes au lendemain de l'épisode du temple. C'est là le jour où Jésus se rend encore dans le temple et il commence à enseigner. Ce qui suscite encore la colère des chefs religieux et des responsables du peuple qui tentent de venir à lui avec un piège en le questionnant sur son autorité. Au verset 23, on lui demande « Mais par quelle autorité fais-tu cela ? Qui te mandate pour enseigner dans le temple ?» Parce que la chose leur était réservée aux chefs religieux. Et on sent la tension grandir de plus en plus entre les deux parties, entre Jésus et les chefs religieux. Mais Jésus, par sa sagesse, retourne leur piège contre eux. Et la question qui est mise devant nous, devant eux, avant nous, mais devant nous aussi, c'est celle de la volonté de Dieu. Comment décriez-vous la volonté de Dieu ? Et il me semble que dans ce passage, on pourra affirmer que la volonté de Dieu, c'est de croire suffisamment en lui pour agir sur sa parole dans tous les domaines de nos vies. Il faut se rappeler que cette parabole se trouve imbriquée dans une section de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus parle de l'importance de porter du fruit, d'être connecté à la vigne de Dieu. Tout ceci est mis en évidence, bien sûr, par plusieurs éléments dans la parabole, et nous allons le voir. Il s'agit d'un père ayant deux fils. Au premier, il demande d'aller travailler dans sa vigne, et celui-ci répond « Je ne veux pas ». Je pense qu'il avait un certain âge quand même, parce que un ado qui répond ça à son papa, aux Antilles, ça ne passe pas, n'est-ce pas ? Et Jésus ne dit pas pourquoi le jeune homme refuse d'aller dans la vigne. Mais on peut faire quelques suppositions. On peut supposer tout d'abord qu'il refuse parce qu'il nie l'autorité de son père, tout simplement. Toi, et vous savez, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, dans les foyers, des pères qui parlent, des mères qui parlent. Supposer avoir une autorité et les enfants qui n'en prennent pas garde. Il vous est déjà arrivé sans doute de parler à des personnes qui se sentent obligées, par exemple, d'être en opposition à tout ce qui leur est proposé, que ce soit de la part des autorités politiques ou judiciaires, que ce soit de la part des institutions comme le mariage, comme l'éducation parentale. Tout ce qui pourrait leur être proposé, ils disent non. Comme si il devait y avoir une force d'opposition. Et eux font partie de cette force d'opposition. Et même à l'Église, on retrouve des gens qui pensent que dans l'Église, il faut aussi contrebalancer les pouvoirs. OK, il y a un pasteur, il y a un conseil. Il propose des choses, mais moi, je suis là en tant que membre d'Église et j'ai le devoir de m'opposer pour faire avancer le schmilblick. Comme si l'Église était une démocratie. En général, les gens ne réagissent pas comme ça, sans raison. Et vous seriez d'accord avec moi. Il y a toujours une raison qui fait que les gens réagissent comme ils réagissent. Il y a toujours une raison pourquoi les gens font ce qu'ils font. Réticence, méfiance, que sais-je. Certaines personnes réagissent exactement de cette manière avec Dieu aussi, se sentent toujours obligées d'être en opposition avec Dieu. Dieu, tu as dit ça, oui, mais, et dans ce cas-là, Dieu qui dit que face à l'ennemi, il faut tendre l'autre joue, oui, Seigneur, mais, et s'il me fait ça? Toujours en force d'opposition, alors que le Seigneur demande juste de l'obéissance. Va dans ma vigne, s'il te plaît. Et pour eux, Dieu est un empêcheur de tourner en rond, et donc la réponse immédiate à ces exigences, c'est non, je veux pas. Je veux pas. La vérité, c'est que Dieu, loin d'être un empêcheur de tourner en rond, il sait mieux que nous ce qu'il nous faut à nous. Et même si ce qu'il nous propose ne nous plaît pas sur le coup, nous devons mesurer la portée, non pour le goût amer que ça pourrait nous laisser, non pour le présent, notre aujourd'hui, mais pour la portée que ça peut avoir dans l'éternité. S'il nous demande de faire des choses aujourd'hui, c'est qu'il sait pourquoi. Il sait que ça a des répercussions dans l'éternité. Un vrai père veut toujours ce qu'il y a de mieux pour son enfant, même si ça ne lui fait pas plaisir, même si ça dérange. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu nous demande de faire ce qu'il nous demande de faire. Mais ce n'est pas tellement ce qu'il nous demande de faire qui est important. C'est plutôt l'obéissance à ce qu'il nous demande de faire qui est important. Parce qu'encore une fois, il sait le mieux ce qui est important et ce qui est bon pour nous. Le Père en arrive ensuite au deuxième fils avec la même demande. Mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et notez bien la réponse de ce fils-là. Il ne dit pas seulement d'accord, je vais y aller. Il dit, je veux bien, Seigneur. En anglais, on dirait « Yes, sir ». Pourtant, il n'y va pas. Malgré sa belle réponse, il n'est pas allé travailler dans la vigne de son père. Ce fils qui avait l'air bien sous tous les plans savait comment donner une réponse qui plaît, une réponse qui est agréable à l'oreille. Il savait comment utiliser le bon langage. Il savait comment afficher la bonne attitude. Il savait comment mettre les formes. Pour autant, au moment où il fallait agir sur la parole qu'il avait donnée, il s'est trouvé en défaut. Il a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Et donc, que pouvons-nous en tirer de ce fils-là? Eh bien, le fait que les bonnes intentions ne suffisent pas. On peut dire oui avec la bouche et non avec le cœur. Et le oui avec la bouche ne nous emmène nulle part. Le premier fils, lui, il a dit non avec la bouche, mais oui avec le cœur. Le deuxième fils, il dit oui avec la bouche, certainement pas avec le cœur. Et nous vivons dans un monde rempli de bonnes intentions. Tout le monde a de bonnes intentions. Les motivations sont bonnes, les volontés sont là, sont souvent légitimes. Les cœurs débordent de bonne volonté. Le deuxième fils semble être mu de bonne volonté, bien sous toutes les formes. Mais Jésus souligne que les bonnes volontés ne permettent pas de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit ici. Qui va dans le royaume de Dieu? En fait, dans un autre passage, Jésus dira, « Pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis ?» Et ça rappelle ce qu'a fait le Fils. « Je vais y aller, Seigneur !» Mais il n'y va pas. Il ne fait pas ce que lui demande son Père. « Vous ne pouvez pas m'appeler Seigneur et ne pas faire ce que je dis. » C'est Jacques qui disait dans son épître, « Ne vous bornez pas à être seulement de ceux qui écoutent, mais mettez en pratique ce que je dis. Si tu écoutes seulement, tu te déçois toi-même. » Nos bonnes volontés, nos bonnes intentions ne valent rien si nos actes ne suivent pas. Et vous savez, il y a un dicton qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Et ce qui signifie exactement cela, la volonté d'agir ou le désir de bien faire ne suffit pas tant qu'il n'y a pas des actions qui suivent derrière. Et souvent, nous nous retrouvons en défaut de ça. Beaucoup pourraient bien s'y retrouver parce qu'ils pensent qu'en disant les bonnes choses, en ayant la bonne attitude, tout va bien avec Dieu. Je viens à l'église tous les dimanches, je vais même aux études le mercredi, tous les mercredis. Alors tout va bien avec Dieu. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ce que Dieu attend, c'est l'obéissance à ce qu'il dit, à ce qu'il demande. Et il le dit dans l'Ancien Testament même, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je peux venir à l'église sous la pluie s'il le faut. Ce n'est pas ce qui importe à Dieu, même si c'est bien de venir à l'église tous les dimanches et tous les mercredis. Mais ce qui importe à Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Les chefs religieux en arrivent à la même conclusion pourtant. Lorsque Jésus leur pose la question, « Qui est-ce qui a fait la volonté du papa là ?» Ils répondent, « C'est le premier fils. » Et par leur réponse, ils s'enferment eux-mêmes dans le piège qu'ils avaient tendu. Parce que Jésus va rebondir sur ce qu'ils avaient dit. Et pourquoi vous n'avez pas fait la même chose? La vigne ici, dans notre texte, et ailleurs, représente souvent le peuple d'Israël. Le Père ici symbolise Dieu. Et on peut le vérifier avec le psaume 80, et particulièrement chez le prophète Ésaïe, dans les versets 1 à 7 du chapitre 5, passage dans lequel Ésaïe se plaint du fait que, malgré tout le soin que Dieu a prodigué à sa vigne, c'est-à-dire à son peuple, elle n'a rien donné de bon. Rien donné de bon. Et il posait la question, Dieu, qu'est-ce que je ferai encore à ma vigne pour qu'elle puisse porter du fruit? Et la menace qui tombe, si ça ne change pas, je l'arracherai et je la mettrai au feu. Nous comprenons également que le premier fils représente ici, et c'est le verset 31 et 32 qui le dit, il représente les collecteurs d'impôts, les prostituées, toutes ceux et celles que les chefs religieux considèrent comme étant des gens de mauvaise vie. Ce sont toutes ceux et celles qui vivaient effectivement dans la débauche, toutes ceux et celles qui vivaient dans une posture de rébellion, mais qui, lorsqu'ils ont entendu le message anciennement de Jean le Baptiste, se sont repentis. Lorsqu'ils entendent le message de Jésus-Christ, se repentent. Et sur cela même que les chefs religieux méprisent, regardent de haut, en pensant qu'ils sont meilleurs. Et bien sûr, le deuxième fils représente les chefs religieux, les responsables du peuple. Eux qui, en premier lieu, avaient accepté de faire la volonté de Dieu, mais qui, au final, ne l'ont pas fait. Oui, monsieur, mais non, avec le cœur. Ils se retrouvent dans la posture maintenant des rebelles, de la rébellion. Et en conséquence, Jésus leur dit que les collecteurs d'impôts et les prostituées les devanceront dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus n'a pas l'air de les exclure encore. Ils les devanceront seulement. Autrement dit, Jésus leur dit clairement que par votre réponse, vous vous condamnez vous-même. Vous avez vu leur exemple devant vous. Et pourtant, vous n'avez pas suivi. Et en effet, les prostituées et les collecteurs d'impôts ont bien voulu travailler dans la vigne de Dieu. Effectivement, après avoir été dans la posture du rebelle, ils se sont ravisés et ils ont accepté. Comme le premier fils. Non, je ne veux pas. Mais après avoir entendu le message, finalement, je veux bien. Je veux aller travailler dans cette vigne. Je veux travailler pour le royaume de Dieu. Je veux porter du fruit. Jésus leur fait comprendre qu'ils ne font pas aussi bons qu'ils le pensent. Ils ne sont pas aussi bons qu'ils le croyaient, bien au contraire. Et lorsque nous lisons cette parabole, il nous est facile de nous attribuer le bon rôle, de penser que nous sommes ces bonnes personnes qui allons travailler dans la vigne du maître. Mais bien loin de constater qu'il n'en est pas ainsi. Très souvent, il n'en est pas ainsi. Et la question qu'il nous faut nous poser, c'est est-ce que nous portons du fruit, nous? Est-ce que ce que Dieu recherche, les fruits qu'il recherche, il les trouve en nous? Et une façon de répondre à la question, par exemple, c'est d'aller dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, et puis de parcourir ce texte de Paul, où il est question des œuvres de la chair, des œuvres de l'esprit, de nous examiner nous-mêmes et de voir si nous pratiquons les œuvres de la chair ou les œuvres de l'esprit. Nous sommes appelés à porter du fruit. Si au bout de cet examen, nous réalisons que nous sommes bien éloignés des exigences de notre Seigneur, alors quelle doit être notre réaction? Eh bien, tout simplement un réveil. Sortir de notre torpeur, sortir de nos illusions, de nos désillusions. Jésus dit dans l'évangile de Jean qu'il est la vraie vigne en qui nous devons demeurer. Nous devons apprendre à demeurer dans son amour. C'est ce que ça veut dire. En apprenant à demeurer dans son amour et dans sa parole, immanquablement, nous serons à même de porter du fruit. Nous serons de ceux qui produiront les fruits de l'homme nouveau, de la femme nouvelle. Immanquablement, Dieu trouvera son plaisir en nous. Il nous est rappelé que si nous ne portons pas de fruits, la seule option, c'est la repentance. Le changement de cap, le changement d'attitude et de prendre au sérieux la parole de Dieu pour l'appliquer dans tous les domaines de nos vies, afin que cette vie soit en conformité avec la volonté de Dieu. Encore une fois, nous pouvons avoir de bonnes intentions. Je ferai. Combien de fois nous nous sommes dit, cette année, avec nos bonnes résolutions. Cette année, je commence à lire ma Bible depuis la Genèse. Je prends comme référence ces pamphlets qu'on nous donne pour la lecture de biblique en un an, ou deux ans, ou trois ans, six ans. Et je vais y aller, plein de bonne volonté. Et puis à la fin de janvier, je suis en retard d'une semaine. Février, oh là. Je n'ai même pas ouvert la Bible. Et on se trouve en défaut. Mais il n'est pas trop tard. Tant qu'on vit, dit le proverbe, il y a des espoirs. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Il n'est jamais trop tard de retourner aux pieds du Seigneur, de retourner à la croix, implorer sa grâce, de sorte qu'il puisse nous donner la force de pouvoir faire ce que nos bonnes intentions nous dicteraient de faire. Mais surtout ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Oui, l'obéissance est mieux que les sacrifices. Tout notre religiosité, nos chants, tous nos louanges, notre adoration ne veulent rien dire si tout ça n'est pas accompagné d'une belle dose d'obéissance à la parole de Dieu. Et si nous sommes de ceux qui portons du fruit, nous pouvons demander à Dieu de nous donner encore, de porter davantage de fruits. De ne pas rester à surfer sur la vague en se disant « ça va », mais de lui demander « Seigneur, donne-moi encore de porter davantage de fruits. Donne-moi d'être de plus en plus émondé, d'être de plus en plus sanctifié par ta parole. » Parce que je veux te plaire, je veux pouvoir porter du fruit pour toi. Je veux aller dans ton champ, œuvrer pour toi, et même en ramener d'autres pour que le travail soit plus aisé. Il est important que nos mots concordent avec nos actions. Parfois, ce qui semble être la bonne action, la bonne chose à faire, peut se révéler ne pas être, au bout du compte, la bonne chose si elle ne remplit pas les conditions de la volonté de Dieu. Et beaucoup de choses se font et se sont faites avec des bonnes intentions. Et puis malheureusement, avec un échec retentissant, parce qu'elles ne suivaient pas la volonté de Dieu. La plupart du temps, nous savons ce qui est bon et ce qui est bien de faire. Nous le savons. Nous savons que la parole de Dieu nous demande à nos maris d'aimer nos femmes. Et ce n'est pas pour autant que la chose est faite. À nos femmes, la Bible nous demande de respecter nos maris, et ce n'est pas pour autant que la chose se fait. Et la parole de Dieu nous demande à nos pères de ne pas irriter nos enfants, et ce n'est pas pour autant que nous ne le faisons. Et la parole de Dieu nous demande à nos enfants d'obéir et de respecter nos parents, et ce n'est pas pour autant que nous le faisons. Mais nous sommes pleins de bonnes intentions. Pleins de bonnes intentions. Comme ce fils, nous disons « Oui, Seigneur. » Mais avec le cœur, tu parles. Ou alors cause toujours. La question, c'est est-ce que nous aimons Dieu suffisamment pour faire ce qu'il nous demande? Est-ce que notre amour pour lui est tellement enraciné, tellement ancré, que nous pouvons faire ce qu'il nous demande? Comment impliquons-nous Dieu dans tous les aspects de notre vie, dans notre mariage, dans nos relations extérieures, avec notre voisinage, avec nos collègues? En quoi sommes-nous des témoins fidèles de l'évangile de grâce? Comment savons-nous ce qui est juste? Comment savons-nous ce qui est bon de faire ou ce qu'il ne faut pas faire? Et le frère le disait encore ce matin, Jean-Pierre, la seule manière, c'est de connaître la parole de Dieu. La seule manière, c'est de la lire, de la consommer avec l'appétit qu'il nous donne. La seule manière, c'est vraiment de nous plonger dans ses préceptes et dans ses commandements. Il nous demande de nous approprier ses promesses, de les méditer en priant et en demandant à Dieu de nous éclairer sur ce qu'il veut que nous fassions pour lui plaire. Pas ce qui nous plaît à nous, mais ce qui lui plaît, lui. C'est ce qu'il nous demande. Alors nous avons tout intérêt à agir comme le premier fils. Peut-être que nous avions dit non au départ, jamais je ne ferai ça. Mais il nous est encore appelé à la repentance, afin que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire, afin que nous soyons dans l'obéissance à sa parole, et ça dans tous les domaines de notre vie. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Je vous demande d'incliner la tête quelques instants pour la prière.